présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. La demi-douce, c'est le très joli titre du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Un livre qui raconte l'enfance et la jeunesse d'un enfant qui a survécu après avoir été arrêté avec sa mère lors de la rafle du Veldiv. Un enfant qui a survécu grâce à sa mère, qui l'a fait hospitaliser, puis ne l'a pas réclamé après sa guérison, mais l'a confié à la tante. C'est l'histoire d'un jeune homme qui grandit avec l'absence de ses parents, l'absence de souvenirs de ses parents, celle d'un jeune homme en colère qui refuse d'apprendre, de mûrir sans eux, et s'aperçoit, une fois plongé dans le monde ouvrier et sa dureté, qu'il est passé à côté de ses désirs. C'est l'histoire d'un jeune homme qui apprend à vivre avec ce passé, à s'accepter comme fils de juifs déportés et exterminés parce qu'ils étaient juifs, et qui choisit de vivre mieux et de s'en donner les moyens. Avec nous pour en parler, son auteur, Henri Ostrowiecki. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, comment vous est venu le titre de ce livre? Un titre assez poétique qui fait penser un peu au terme « doux amer ».
Alors le choix du titre a été non pas problématique, mais il y a eu des allers-retours. Et ça a été le dernier d'une longue série. Et ce titre, c'est un clin d'œil avec le monde du travail. Et j'ai souhaité qu'il y ait cette ambiguïté, cette ambivalence plutôt. On ne sait pas de quoi il s'agit. En fin de compte, il s'agit d'un outil. Est-ce que je lasse le mot? Il s'agit d'une lime, la taille d'une lime. Et peu de gens savent, parce que la culture technique n'est pas une culture développée. Ça, c'est une grande carence dans notre culture. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que mon livre, le livre de ma vie, je peux le dire comme ça, ait ce titre.
Oui, d'ailleurs, c'est un hommage que vous rendez dans votre livre consciencieusement, avec beaucoup de détails et beaucoup d'amour, on pourrait dire, à ce monde du travail, à ce monde de l'outillage, à ce monde du geste manuel. Même s'il est répétitif, on sent qu'il y a une attention à ce monde-là.
Oui, là, c'est vraiment... il n'est pas surprenant dans ma construction de... j'ai commencé par le monde du travail et non pas de l'histoire du petit juif qui a perdu ses parents le 16 juillet 1942, qui est vraiment le traumatisme. Et j'ai voulu aborder cette question par ses conséquences et non pas par ses causes. C'est pour ça que j'ai inversé le propos. Effectivement, par rapport au monde du travail, que j'ai voulu fuir à tout prix. Et en même temps, j'ai aussi une grande tendresse pour ce monde que j'ai voulu décrire dans le détail. Parce que, je dois rendre hommage aussi à ma femme, Cathy Hazan, qui, quand elle a lu mon travail, elle m'a dit « il faut absolument que tu publies ce texte, parce qu'on ne sait pas, ces gestes ont disparu ». Elle est historienne, donc elle connaît un petit peu la question. Voilà la raison, une des raisons qui m'ont poussé à, d'une part, à choisir ce titre, un petit peu ambivalent, comme je le disais tout à l'heure, et puis de traiter le plus finement possible les arcanes de ce jeune homme dans le monde du travail.
Alors on peut aussi se poser une autre question, Henri Ostrowiecki, c'est pourquoi publier ce livre si tardivement, finalement?
Pour moi, il n'est pas tardif, il fait partie de ma vie. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai commencé, ça va peut-être vous surprendre, il y a 52 ans. Je ne l'ai pas commencé parce qu'il y a 52 ans, j'avais aucune idée sur les quelques mots que j'avais jetés rageusement lors de mon service militaire, ça on pourra peut-être y revenir. Je ne savais pas que ça allait plus tard, des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, devenir un livre. Donc il est l'aboutissement tranquille d'un chemin, et c'est pour ça que j'en suis extrêmement heureux. Il n'y avait pas d'attente. J'ai cheminé avec ce manuscrit depuis des années. Bon, il n'était pas publié, et je me disais même si un jour il n'est pas publié, ben je prendrai mon manuscrit, j'irai voir un imprimeur, j'en ferai imprimer une centaine pour ma famille, mes amis, et puis voilà. Et puis la chance, parce que je trouve que c'est une chance d'avoir été publié, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent, et d'avoir été choisi, c'est pour moi un honneur, et je remercie les éditions des Rosiers et Martine Krief qui a été la personne qui m'a téléphoné et qui a eu cette phrase magique que tous les auteurs attendent, « J'ai lu votre travail, il faut qu'on s'en rencontre ». Voilà.
Alors effectivement, vous l'avez dit, votre livre commence par la fin. Il a une construction étrange qui suit celle de votre parcours finalement, puisqu'il vous a fallu parcourir tout un long chemin pour renouer avec votre histoire. Donc vous commencez donc par vos débuts à l'usine, votre découverte de ce monde ouvrier, un monde ouvrier auquel vous avez appartenu. Mais vous avez appartenu à ce monde avec colère et finalement vous rendez effectivement hommage à ce monde dans ce livre. Mais c'est aussi quelque chose qui explique bien le gâchis, le cheminement de ces enfants qui ne se débrouillent pas avec l'école, qui finalement ne savent pas trop quoi faire et qui se retrouvent dans des espèces de voies où on les met sans vraiment leur dire ce qui les attend ensuite. Il y a beaucoup de colère dans votre texte.
Ah, il y en a encore même. Il y en a encore parce que je trouve effectivement c'est un gâchis. Alors, dans l'histoire de mon parcours, effectivement, j'ai loupé le train des études. Parce que normalement, compte tenu de là où je vivais, c'est-à-dire dans ma famille, ma nouvelle famille, famille d'accueil de mes oncles et tantes, j'aurais dû faire des études. Mais j'étais quelqu'un qui était petit, mais en colère. Et quand on est petit, comment exprimer sa colère ? Sinon de refuser le monde qui vous entoure, et le monde qui entoure un petit, c'est l'école. Je refusais, j'étais un peu emmerdant, si je peux me permettre un peu l'expression. Et il a fallu, à l'âge de 12 ans, que je me suis rendu compte que j'étais, heureusement que j'ai eu ce réflexe, mais un an trop tard, où je me suis rendu compte que j'étais en train de scier la branche sur laquelle j'étais assis. Trop tard. J'ai pris la voie de l'école communale, le CEP, le certificat d'études primaires, qui n'existe plus maintenant, son apprentissage, et directement, les portes de l'usine se sont ouvertes devant moi. Voilà. Et donc... effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au gâchis, alors, tout dépend de quel point de vue on se place. Si j'avais été dans une famille ouvrière, il y avait une logique au fait d'être soi-même dans la lignée, être ouvrier soi-même. Et ce qui était le cas de tous mes copains lorsque j'étais à l'école primaire. Ben, tous mes copains et les parents étaient à la SNECMA, ils travaillaient à droite à gauche dans la banlieue. Et Gentilly se situe dans la banlieue sud, très près de grandes usines de l'époque, Panhard, la SNECMA, enfin des grandes entreprises, et puis il y a des petites. Donc il y avait une logique pour la plupart de mes copains, et la logique était telle d'ailleurs qu'ils étaient à l'atelier pour gagner de l'argent et reverser la paye et mettre ça dans le pot commun de la famille. Moi, il n'en était pas question. Et donc, il y avait une contradiction intense. Mes cousins, cousines faisaient les études. Ça, c'était ma première blessure, parce que ça a été la marque que j'étais pour moi, j'étais le roi des crétins, puisque j'étais dans une famille où mes aînés faisaient des études, et moi, non. Donc, si on fait des études, c'est qu'on est intelligent, c'est qu'on n'en fait pas. Ben, bon. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant, je dirais même encore maintenant. C'est-à-dire que par rapport à la place de l'enseignement technique, par rapport à l'enseignement tout court, si t'es pas bon, te mets dans le technique, comme une faute. Et ça, bon, je continue à être en colère par rapport à ce point de vue. D'ailleurs, ça ne date pas d'hier, ça fait plus de deux siècles qu'on sait le mépris des possédants, enfin des élites, on va dire, vis-à-vis du geste manuel. Je me souviens des textes d'Alembert, de Monge, qui expriment ça avec colère. Donc tout ça fait partie d'une grande, j'allais dire, d'une mauvaise tradition, mais d'une tradition. Si tu n'es pas bon, tu seras dans le technique.
Et donc vous parlez de ces hommes qu'on laisse en friche, mais vous rendez aussi des hommages à certains collègues, à des figures comme ça qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé, qui vous ont mis le pied à l'étrier, que ce soit des ouvriers, des patrons, des chefs d'atelier, tous les corps de métier sont représentés, l'école bleue comme l'école blanche dans l'usine.
Absolument. Et là, je dois dire, ça fait partie aussi de la richesse de la vie de ces ateliers. Cette période se situe à une période de plein emploi. On avait du boulot, on dit plein les mains, on quittait un atelier le soir. Et on était réembauché le lendemain matin. Il n'y avait pas de, trou, il n'y avait pas de temps mort.
Oui, on sent cette liberté. Vous quittez, vous retrouvez
un
emploi.
Et on se repassait les adresses. D'ailleurs, une, je décris, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important dans mon itinéraire, un des ateliers, on me conseille très fortement d'aller dans un atelier de très haute technologie, où on réalise des montages de très grande précision, et on demande un fraiseur. Et je dis à mon copain, mais je ne suis pas fraiseur. Il me dit, ça fait rien, tu y vas quand même, parce que c'est une boîte qui paye très bien. Enfin bon, c'était la course au salaire. Enfin bon, c'était une promotion aussi d'être fraiseur. Hein. Une parenthèse, lorsque l'on est dans le métier de la mécanique, il y a aussi une hiérarchie. Et il se trouve que l'ajusteur est en bas de cette hiérarchie. Je parle des métiers du métal, je ne parle pas du bois. Du métal, il y a les ajusteurs, les tourneurs et les fraiseurs. Et là, d'un seul coup, j'étais promu. Hein, potentiellement on grade de fraiseur. Et donc là, je me présente dans cet atelier et je me dis, mais t'es complètement cinglé. Tu vas te faire virer à la première minute, on va bien s'apercevoir que t'es un bon à rien, que tu as jamais j'avais jamais touché une fraiseuse de ma vie. J'en avais vu, évidemment, en passant dans les ateliers. Je l'avais étudié dans les cours de technologie professionnelle, mais quant à l'utiliser, c'est là où on mesure la qualité du professionnel, jamais, rien. Et là, pour faire court, le drame n'est pas arrivé grâce à quelqu'un qui me chuchote plutôt à l'oreille, parce que j'étais en train de ruisselant de sueur, paniqué, je me dis, mais Guy, je suis coincé, je vais être viré, ça va être je vais me retrouver dans la rue, qui me dit, t'es dans la merde. Hein. Et c'était pas la voix du contremaître qui m'avait embauché. Et je me suis retourné et j'ai vu le visage souriant, aimable, d'un gars, il était tourneur, il était aussi fraiseur, d'un ouvrier espagnol, et qui m'a dit, ne t'inquiète pas, on va s'arranger, et il m'a appris le métier, et ça a démarré comme ça, et voilà, et c'est comme ça que je suis resté dans cet atelier 7-8 mois.
Alors votre parcours va croiser une autre injustice que vous vivez encore comme une injustice, c'est donc l'obligation de faire le service militaire, de répondre aux obligations militaires, alors que vous pensiez pouvoir être dispensé, puisque vous aviez repris justement des études à mi-temps, et pourtant vous vous retrouvez effectivement au service militaire. Alors, en Tunisie, pas en Algérie,
alors,
heureusement.
Bon, voilà. Donc, mais là, pour resituer le contexte, on est en pleine guerre d'Algérie. Je crois que c'est ça qui justifie, aux yeux des autorités, le fait qu'on incorporait des pupilles de la nation. Pupilles de la nation, on était censé être exempté de service militaire. On a besoin de chair humaine, on a besoin de soldats. Eh bien, on a incorporé des pupilles de la nation. On ne les a pas envoyés en Algérie, mais on s'est arrangé quand même pour les envoyer en Tunisie, pas très près de l'Algérie, on était à la frontière, hein, parce que j'étais un peu repéré politiquement, et c'est une façon de me faire payer un peu la note. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle je me suis retrouvé en Tunisie, et c'est là que ce manuscrit est né.
Oui, vous dites, pour revenir juste sur cette question, avant d'arriver justement à ce fameux manuscrit, que vous étiez repéré politiquement parce que vous aviez commencé à faire un acte qui vous amenait justement vers cette prise de conscience, vers le fait de renouer avec ce passé. Vous aviez signé, en tant que fils de déporté, une lettre contre la nomination de l'ancien nazi Hans Speidel au commandement des forces armées
à l'OTAN. Voilà. Donc c'est à partir de là que, je dirais, les ennuis ont commencé. J'ai eu du mal à signer cette lettre, et là ça renvoie à ma condition de juif et des raisons pour lesquelles mes parents sont morts. La majorité des signataires de cette lettre, notamment mon meilleur ami de l'époque, Daniel Beck, son père avait été fusillé, je crois, au Mont-Valérien. Il avait une raison noble qu'avait fait mon père, qu'avait fait ma mère. Et donc j'étais pour le moins pas à l'aise du tout par rapport à cette question. Et après discussion, hésitation, j'ai signé cette lettre. Et ça m'a libéré d'une certaine façon, parce que il fallait que je franchisse ce pas. Il fallait que j'accepte que mes parents étaient morts parce qu'ils étaient juifs. Un point, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile quand on perd ses parents, quand on a à peine 5 ans, de l'accepter, parce que on ne comprend rien. Mais on comprend tout. C'est en même temps, c'est très bizarre. De la même façon, je fais une parenthèse, quand j'ai vu ma mère partir, quand on a été séparés, je suis resté dans les bras du policier, et elle est partie vers les camions, il y avait des autobus et tout ça. Je me souviens de son regard. Et il y a quelque chose qui me disait, mais sans formulation, que c'était que je la voyais pour la dernière fois. Qu'est-ce qui me permettait de dire ça? Est-ce que c'était la violence alentour? Est-ce que c'était le climat? Je n'en sais rien. Mais il y avait quelque chose d'une fracture qui venait de s'abattre sur moi. Et voilà. Donc j'ai perdu le fil.
Vous l'avez retrouvé, oui. En fait, je pense. Oui. Donc effectivement, on arrive à cette nuit de Bizerte. Oui. Vous êtes donc en train de faire votre service militaire et vous vous mettez à écrire d'une manière totalement inattendue. L'écriture arrive, vous vous mettez à écrire cette histoire justement que vous venez de nous raconter. Voilà. Cette histoire qui est fondatrice dans votre oui. vie, celle de la séparation avec votre mère qui a été donc déportée. Votre père l'a été peu avant. Puis tué, donc assassiné dans les camps d'extermination.
Alors, pour comprendre la genèse de ce qui s'est passé dans cette folle nuit de Bizerte, il faut remonter un tout petit peu en arrière à mon arrivée à la caserne, quand j'ai été incorporé en novembre 57. On est un peu paumé et puis dans la file où on est tous alignés en train d'attendre pour passer dans le bureau des effectifs, et je regarde si je ne rencontre pas un visage connu. Je ne connaissais personne et je vois un gars que je ne connaissais pas mais qui m'intrigue. Il avait la tête dans les épaules, presque les oreilles comme ça. Et il avait le visage très taciturne et puis il m'a intrigué. Et je me suis rapproché de lui. Il était très nettement plus vieux que nous. Effectivement, il avait 27 ans, c'était un sursistère. Et on est devenus très amis très vite. Et je découvre qu'il était juif, je découvre qu'il était orphelin, je découvre qu'il était communiste, toutes ces choses qui faisaient qu'on est devenu inséparables. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué parce que pour moi, de rencontrer quelqu'un qui avait fait des études, c'était un cadeau. J'étais à la recherche, j'étais avide de tout. Il parlait de philo, il parlait de plein de choses que je comprenais à peine. Enfin, bon. Et donc, et la question qui me travaillait à l'époque, c'était pourquoi lui s'intéressait à moi. Bon, mais moi, je m'intéressais à lui. Et donc, pour répondre un peu à votre question, lui, donc aussi pupille de la nation, mais avec un statut d'apatride. Et on lui avait dit... Si tu veux devenir français, il faut faire le service militaire. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouvait incorporé. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc je me suis retrouvé en Tunisie, deux mois avant lui, en février 59. Deux mois plus tard, il me rejoint. J'étais heureux comme tout, mais il était très triste. Je l'avais quitté triste, mais là, il était encore un peu plus. Et très vite, il me dit « Je ne ferai pas de vieux os ici. On m'a dit que de toute façon, j'étais trop repéré. Jamais je ne deviendrai français. » Donc, comme il s'était un militant politique, il a décidé de déserter. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire, déserter.
À l'époque, surtout.
En pleine guerre. C'est 10 ans de prison. Donc, c'est 10 ans de prison pour celui qui déserte, mais c'est aussi 10 ans de prison pour celui qui couvre le déserteur. Et on avait très bien vu qu'on était tout le temps ensemble. On était des copains, donc il n'y avait pas aucune raison de se cacher. Et donc, ce qui est arrivé. Donc, j'ai eu affaire à un interrogatoire qui a été... on a monté un petit tribunal avec trois officiers, dont un de la Sûreté militaire, parce qu'à l'époque, à Bizerte, il ne se passait pas grand-chose. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Donc, c'était l'événement de la base de Bizerte. Un sergent français déserte, rejoint l'ennemi, passe au FLN, etc. Et l'ami de ce gars-là, c'est moi. Donc ça craignait, comme on dit, pour moi. Bien. Et donc il a fallu que je m'invente une nouvelle attitude, parce que vis-à-vis de tous mes copains, c'était incompréhensible. Est-ce que tu savais, etc. Donc j'ai joué la duplicité. J'ai insulté mon copain qui a déserté de tous les noms pour bien montrer que je n'étais pas au courant. Enfin, bon, voilà. J'ai minimisé les choses. Là-dessus, il y avait un des trois officiers que je soupçonnais d'être foncièrement antisémite, qui un jour, en plein rapport, je faisais office de sous-officier, et qui me dit en plein rapport, le doigt tendu comme ça vers moi, Ostro, je vous casserai. Et s'il avait eu une balle au bout de son doigt, elle aurait été pour moi. Et donc, j'étais dans une tension assez grande, vous l'imaginez, au moment de l'interrogatoire. Et j'avais la peur d'une chose, c'est qu'on me frappe. Et je ne savais pas du tout quel serait mon comportement face au coup. Parce que, en fin de compte, ce que voulaient les officiers, c'était une chose très simple, c'est de savoir où était parti mon copain. Et ils pensaient, alors c'était plus que ça aussi, c'est qu'ils pensaient qu'on faisait partie d'un réseau. C'est pour ça que la sûreté militaire était intéressée. Parce qu'il y avait des réseaux de déserteurs. Il en était pas, nous, on n'en faisait pas partie, mais on aurait pu. Mais il se trouve que ce n'était pas le cas. Et donc, j'imaginais tout. Je me dis, si on me frappe, je ferai comme certains soldats en Algérie. Je vais manger des sardines pourries pour me faire éclater la bile, pour être rapatrié sanitaire. Et comme ça, je disparais de l'horizon. Et quand on fait ça, on est malade du foie pour toute sa vie. On a la bile qui éclate et c'est l'horreur. Les interrogatoires se passent bien. Je découvre ce que c'est que les interrogatoires croisés. On vous pose une question, vous commencez à répondre à la première question. Il y en a un deuxième qui vous pose une autre question, qui n'a rien à voir avec la première. Donc vous commencez à répondre à la deuxième. Le troisième vous pose une troisième question. Le premier vous reprend, vous redemande. Hey, alors, moi, je vous ai posé une question. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui tape à la machine pour tout enregistrer. Ça se passe bien. Donc... l'officier en question était un petit peu foudrage et donc j'ai eu le droit à un supplément de tour de garde, de brimade administrative. Mais j'étais tellement heureux de ne pas avoir craqué que tout le reste, bon, je m'en fichais complètement. Et c'est lors d'une de ces nuits de garde, en tant que sous-officier, qu'au lieu d'aller taper le carton ou d'aller discuter avec les soldats qui étaient là en attente de faction... Eh bien, j'avais des feuilles de papier sur moi, un bout de crayon, et je me suis mis à écrire. Et à écrire quoi? Non pas l'interrogatoire que je venais de subir quelques semaines auparavant, mais l'événement tragique, je veux le dire, qui s'était passé 15 ans ou 17 ans avant, c'est-à-dire mon arrestation avec ma mère. Et là, je me suis mis à écrire comme... Oui, on peut dire, j'ai déliré. J'ai déliré, on dirait maintenant, j'ai pété les plombs. Mais pas psychiquement, c'est-à-dire que j'ai écrit comme en boucle, d'une façon, mais pendant plusieurs mois. Et je pensais heureux d'avoir toutes ces feuilles devant moi, parce que c'est l'effet que ces textes, ces feuilles, enfin cette écriture plutôt, a produit, c'est que cette histoire que j'avais en moi depuis des années, elle était d'un seul coup devant moi. Je l'avais projetée. Et je pensais avoir réussi, gagné, que ça y est, l'histoire de la Shoah, du petit juif, c'était réglé. Je lui avais réglé son compte, d'une certaine façon. Manque de peau. C'est là qu'on a rendez-vous avec l'histoire. Et c'est pour ça que l'histoire est tellement importante. C'est peut-être pas étranger que je vive avec quelqu'un qui est historien, enfin qui est historienne, parce que du coup, j'adore l'histoire. Et on est au début des années 60. Donc je me mets à reprendre des études, je rencontre ma future femme, je fais des enfants, je fais des études au CNAM, etc. Tout va bien, tout va bien. Avec quand même de temps en temps des périodes de blues. Je piquais du nez, je disais à ma femme, t'inquiète pas, de temps en temps, je plonge pendant un ou deux jours, trois jours, j'ai besoin de me ressourcer. Mais je le dis maintenant comme ça, mais à l'époque, je le disais pas, je savais pas le formuler, ça. Et puis je remontais en surface. Puis ces périodes de blues, comme on dit, il y en avait de plus en plus. Donc la question n'était pas réglée. Et il y a eu deux événements historiques qui m'ont rappelé à l'histoire. C'est le premier événement, c'est la déclaration d'Arquet de Pellepoix, le premier secrétaire général aux questions juives de Vichy, et qui a dit entre parenthèses qu'à Auschwitz, on ne gazait que les poux. Et le deuxième événement historique, ça a été le procès de Cologne. Ça a été beaucoup plus important, parce que là, je me suis senti impliqué directement.
Oui, parce qu'on jugeait là celui qui avait décidé la rafle du Veldiv.
Voilà, Kurt Lischka, avec deux autres, Eric Zohn et Hagen. Et là, je me dis, mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu fais? Tu es là avec ton histoire sur les bras. Et donc, j'apprends l'existence de Serge Klarsfeld, qu'il y a un procès qui va se tenir à Cologne, qui a 150 parties civiles. Je me suis dit, j'ai toute ma place en tant que partie civile. Et là, je crois que j'ai peut-être eu le bon réflexe. Pardon. c'est de me dire, bon, il y a 150 parties civiles, je vais être la 151e, qu'est-ce que ça va changer au cours de l'histoire ? Par contre, si tu as des choses à dire, parce que j'avais de temps en temps ce yo-yo que je faisais, ces périodes de blues, je me dis, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Mais quoi ? J'allais pas prendre du papier, je savais pas. Bon, mais voilà, j'avais ça, j'avais cette interrogation-là. Et comme je ne crois pas au hasard, un midi, je rentre chez moi et j'entends sur ma radio préférée, France Culture, c'est pas de la pub, mais j'écoute une émission de Gilles Lapouge, je l'avais prise en marche, et j'entends le journaliste interroger quelqu'un qui parlait des Juifs. Il en parlait d'une façon qui me plaisait beaucoup. Et j'attends la fin de l'émission, et c'était Luc Rantanzweig qui parlait du catalogue pour des Juifs de maintenant. Et je me suis dit, il faut que je rencontre ce gars-là tout de suite. Donc j'ai rencontré, ça ne m'a pas été difficile. J'avais des amis qui m'ont dit, mais tu vas voir, ils m'ont donné ses coordonnées. Je l'ai rencontré, je lui raconte mon histoire. Il me dit, ça tombe très bien, le catalogue marche formidablement bien. Il est question d'en faire un deuxième numéro. Tu nous écris ton histoire et on la publie. Et d'un seul coup, je me retrouve devant une commande de raconter la rafle du Vel'd'Hiv.
Voilà, bah vous avez bouclé vous-même cette boucle, Henri Ostrowiecki, donc merci encore. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Demi-Douce, donc votre livre, qui est paru donc il y a 2 mois aux éditions des Rosiers, donc j'engage les auditeurs à le lire. C'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 3 adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.
Merci.